Comment dire, la violence s'est produite avant, pendant les 10 mois de blocus, pendant, avec des discours de haine, des bombardements, etc., pendant la guerre de 2020, où elle a été extrême, avec des armes non conventionnelles, avec... bref, la violence a existé. Donc là, c'était après avoir asphyxié la région. C'est un peu un crime parfait. Les gens sont partis, entre guillemets, d'eux-mêmes. Et donc, ils peuvent dire qu'il n'y a pas eu de violence de l'exode. Au contraire, on a ouvert des soi-disant couloirs humanitaires. Et en réalité, la voie d'accès entre l'Arménie et le Haut-Karabakh, le fameux corridor de la Chine, dont l'ouverture était garantie par l'accord de paix de 2020. Donc on l'a ouvert brutalement et donc les gens s'y sont engouffrés.
C'est une contrainte implicite pour vous.
C'est totalement une contrainte implicite.
Moi, je n'aime pas qu'on mette le terme de génocide à toutes les sauces. Je veux dire que c'est quelque chose de sérieux, un génocide. Là, par exemple, c'est une expulsion. C'est une expulsion. C'est-à-dire qu'on vous dit foutez le camp. Bon, on peut appeler ça un nettoyage ethnique, mais un nettoyage ethnique, ça reste quand même ambigu parce que moi je peux nettoyer en tuant et je peux nettoyer en expulsant. Et tant qu'on est en vie, il y a quand même de l'espoir. Donc il faut être, comment dirais-je, modéré dans son vocabulaire.
Dans la dénomination.
Rien de bon.
Non. Il y a un grand clivage entre l'exécutif européen, la Commission européenne, et les parlementaires qui sont beaucoup plus, qui vont beaucoup plus en avant. On voit bien le clivage et le fossé entre ceux qui agissent, si je puis dire, ceux qui doivent prendre des décisions, et puis les parlementaires qui sont moins dans la décision. Du côté français, il y a eu quand même, d'ailleurs, il y a le groupe parlementaire Renew qui est avec Madame Loiseau, par exemple, Renaissance à l'Union européenne.
Nathalie Loiseau
a été vraiment en première ligne. Et puis on a vu le groupe d'amitié franco-azéri ici en France qui s'est dissous. Et ça c'est important parce que c'est quand même l'un des instruments du lobbying azerbaïdjanais en France. Donc ça on voit quand même des petites choses qui se passent. Mais qu'est-ce que vous voulez que la France fasse? Enfin, je dirais, elle n'avait pas grand-chose à faire.
Oui, mais pour revenir sur génocide, pas génocide, processus génocidaire, je rappelle qu'en 1915, le génocide a été commis notamment par la déportation de masse forcée, avec des massacres en cours de route, mais aussi, officiellement, c'était une délocalisation des Arméniens loin des zones de combat. Donc la déportation a été un instrument, un outil à la fois du génocide et de son camouflage. Donc ça, c'est un élément. Dans la Stepanakert, repris par l'Azerbaïdjan,
qui est la capitale donc du Haut-Karabakh.
Du Karabakh, renommée Karendi. On vient de nommer une des grandes artères, boulevard Enver Pacha, qui a été l'un des génocidaires de 1915. Donc il y ait
un génocide qui n'est pas reconnu ni par la Turquie, ni par l'Azerbaïdjan.
Mais qu'il y ait une continuité dans le discours, dans les discours haineux, dans les discours des officiels, nous allons finir le travail de 1915. Donc ça, c'est un élément.
Sur le droit.
Alors sur le droit,
qui est du côté des Azéris.
Gérard Chalian a raison de dire que c'est une situation complexe. Parce que c'est une zone qui a été conquise et dominée et partagée entre différents empires. Donc chaque empire a marqué son territoire avec des délimitations administratives successives, parfois plusieurs en un siècle. Rien qu'en 19e siècle, après la conquête russe, les Russes ont changé 6 ou 7 fois les frontières de la région. À l'époque soviétique, on a aussi changé 6 ou 7 fois les frontières de l'ensemble de la région. Donc il n'y a pas eu de frontières intangibles. En période de sortie de guerre, en période de sortie d'empire colonial, parce qu'il faut aussi parler d'empire colonial, y compris pour l'Empire ottoman et pour l'Empire russe, quoi qu'on en pense, eh bien, les populations qui ont été favorisées par l'un ou par l'autre dans le cadre du diviser pour régner, pour empêcher justement les séparatismes, essaient de retrouver ce qu'ils considèrent comme leur territoire rêvé et évidemment s'écharpent entre elles.
L'Europe n'a rien fait du tout, à part des mots. C'est-à-dire que nous, en Europe, nous avons pris l'habitude de dire c'est inadmissible, ce qui signifie on l'admet. Ensuite, nous disons, ça nous sommes très concernés, ce qui veut dire on s'en fout. Voilà, parlons clair. Maintenant, ceci dit, quand on regarde l'annuaire de l'URSS de 1925, l'annuaire de l'URSS de 1925 dit Nakhichevan, 55% d'Arméniens. Il n'y en a plus un seul. Deuxièmement, en ce qui concerne le Haut-Karabakh, 95%. En 1991, il en restait 75. Donc il y a eu une politique délibérée du côté azerbaïdjanais de vider autant que faire se peut. Et les circonstances font que cette fois-ci, le rapport des forces a été de leur côté.
Alors, c'est-à-dire que surtout, on voit très bien, vous parlez de l'Europe, on voit très bien qu'effectivement les pays qui sont très dépendants de ce gaz-là, c'est-à-dire l'Italie, la Hongrie,
l'Espagne,
l'Est, sont beaucoup plus... ne monte pas au créneau contre l'Azerbaïdjan, hein, ça on le voit très bien. Cela dit, il faut relativiser. La consommation de gaz en Europe, c'est 400 milliards
par an. Donc là, c'est que 5%.
Oui. C'est même pas 5%. Ça sera 5% en 2027 quand il y aura... Donc il faut quand même relativiser. Mais c'est vrai que certains pays, et la France n'en est pas un, certains pays sont beaucoup plus dépendants. Donc on peut aussi regarder effectivement le positionnement politique et le positionnement critique vis-à-vis de l'Azerbaïdjan à la lumière de l'approvisionnement de gaz. Ça, c'est sûr.
Non, il y a pas une proximité de, comment dire, de dominant et de dominé, entre guillemets. Voilà, donc quand l'Arménie les arrange, ils soutiennent l'Arménie. Quand c'est l'Azerbaïdjan, ils soutiennent l'Azerbaïdjan. Ils n'ont pas d'alliés, ils ont des vassaux. Donc plus ou moins rétifs.
Enfin, ils étaient dans la même organisation du traité de sécurité collective.
Bien sûr, et donc ils ne sont pas intervenus quand l'Arménie... Ils ont des bases en Arménie. Il y a des accords de garde commune des frontières qui courent jusqu'en 2050. Ils possèdent finalement tout le système énergétique de l'Arménie, la centrale nucléaire, l'axe électrique...
Mais les soldats russes n'ont pas bougé.
Les soldats russes,
lors de l'arrivée, ce qui fait dire
qu'ils étaient non seulement complices, mais peut-être aussi... Ils ont donné le feu vert à Bakou en 2020. Pour revenir à la question du gaz, comme l'a dit très bien Ariane, c'est plutôt l'Azerbaïdjan qui est dépendant de l'Europe que l'Europe qui est dépendant du gaz azerbaïdjanais. En plus, ce gaz alimente surtout les pays qui traversés par le gazoduc, et en premier lieu la Turquie. Donc l'argent des contribuables européens, dont le nôtre, citoyens français qui contribuons au budget de l'Europe et qui permettons cette politique, sert finalement à alimenter en gaz ou en hydrocarbures russes la Turquie et d'autres pays traversés. Et même l'Italie, je ne suis pas sûre qu'elle soit très alimentée. Enfin, je veux dire que sa consommation par rapport à ce qui arrive soit fondamentale. Donc on est dans une autre... comment dire, le positionnement de l'Europe, c'est on ne veut pas affronter directement ni la Russie ni la Turquie,
clairement. Évidemment, je veux dire... Dès qu'on est différent, ça compte. Je dirais que ce n'est pas un conflit religieux.
Ah, votre voisine n'est pas du même avis.
Oui, non, si, tout à fait.
Ce n'est pas un conflit religieux.
C'est un conflit territorial. C'est-à-dire que s'ils étaient tous les deux chrétiens ou tous les deux musulmans, ils se battraient quand même pour le territoire. Mm-hmm. Bon. Ceci dit, du côté arménien, je voudrais quand même dire des choses que je n'entends pas.
Dites.
Il y a eu... une consternante impréparation devant ce qui leur est arrivé.
De la part du Premier ministre arménien, c'est ça ?
De la part du Premier ministre, de la part des élites politiques arméniennes. Lorsque, dans la précédente guerre, les Arméniens ont gagné, il y a eu un président de la République de l'époque, Der Petrosyan, qui a dit « Il faudrait quand même rendre une partie des territoires que nous contrôlons qui sont proprement azerbaïdjanais. » On lui a répondu, non, on ne rendra rien parce que nous avons versé notre sang, comme si on pouvait faire une guerre sans verser de son sang. Mm. C'est-à-dire qu'on s'est crispé du côté arménien sur on ne lâche rien.
Tout ou rien, c'est ça que vous voulez dire.
Absolument. Oui. Et ça n'existe pas, une situation gelée ad aeternam. Le temps a travaillé pour les Azerbaïdjanais. Les Azerbaïdjanais ont travaillé pour eux-mêmes. Ils ont eu un coup de main très sérieux de la Turquie, qui les a appuyés à fond. Ils ont eu la mansuétude d'Israël, parce que les Israéliens, ça leur permettait d'avoir un contact avec le nord de l'Iran.
Et de vendre des armes, à l'Azerbaïdjan.
Oui, il y a des paroles tout à fait contraires. Hein. Le président de l'ambassadrice, ce n'est pas exactement sur la même ligne que l'ambassadrice. Non, alors, il y a un risque, surtout... C'est pour ça que je suis tout à fait d'accord, ça n'est pas un conflit islam-chrétien, ça n'est pas non plus... Alors j'ai entendu dire que c'était l'Empire ottoman, n'a jamais été dans cette région-là, donc ça c'est faux. Et même le panturquisme, c'est un peu l'habillage idéologique. La vraie raison, c'est que la Turquie veut être un hub gazier et pétrole, veut maîtriser l'approvisionnement en énergie de l'Europe, elle veut être cette plateforme, et l'idée, c'est de faire venir effectivement les énergies d'Azerbaïdjan. Donc, comment les faire venir? Eh bien, il faut passer par l'Arménie. C'est-à-dire qu'il faut faire un lien.
C'est ce qu'on va voir sur la carte. Et c'est...
Où est-ce que Aliyev et Erdogan ont fêté la victoire de l'Azerbaïdjan?
À Nakhitchevan, dans l'enclave azérie.
Dans l'enclave azérie, qui est frontalière de la Turquie, mais qui est frontalière aussi de l'Arménie. Donc tout est dit.
Depuis longtemps, c'est annoncé comme objectif depuis la première guerre. Je rappelle aussi que la famille Aliyev, le clan Aliyev, est originaire du Nakhitchevan. Donc c'est pas non plus une région totalement, c'est une région qui leur tient à cœur. Je voudrais dire que c'est pas une question, je pense, territoriale au sens territorial, s'agrandir, etc. C'est une question de domination, de pouvoir, de stratégie. Il y a d'autres pays qui ont des tas de minorités, des gens qui revendiquent des droits culturels, des droits sociaux. Or, on est dans des régimes dictatoriaux qui n'admettent pas la différence.
Et qui ont une ambition territoriale.
Vous êtes et qui ont que les cartes de cette époque, ou d'autres cartes, témoignent des territoires rêvés et des ambitions. Mmh. Et donc ça, ce n'est pas vrai. D'ailleurs, ils parlent de l'Arménie actuelle comme l'Azerbaïdjan occidental, comme vient de le rappeler Ariane. Et par ailleurs, ils ont parlé de droit international. Ils se sont attaqués aussi au territoire souverain de l'Arménie depuis en 2020, en 2021, personne n'a réagi. Mm-hmm. Et s'agissant de droit international, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes est aussi un droit international. Mm-hmm. Alors l'Europe ou la communauté internationale le respecte dans certains cas et dans d'autres non, parce qu'il y a une hiérarchie des priorités, des intérêts, et l'Arménie n'est pas au centre de cette hiérarchie, ni en haut, ni mais plutôt en très très bas.
Je pourrais aussi vous montrer la même carte sur ce qui était revendiqué par les Kurdes, ou revendiqué par les Assyriens, ou revendiqué par les Arméniens, qui rêvaient d'ailleurs de partir de la Méditerranée jusque-là. Bon, donc, chacun avait son fantasme territorial. Dans la pratique, bon, les gens se sont battus, et en fin de compte, qu'est-ce qui triomphe dans ces cas-là ? Le rapport de force. En histoire, le rapport de force, c'est ça qui compte. Bon. De surcroît, en ce qui concerne les Azerbaïdjanais, ils ont une arme fantastique.
Qui est ?
Les hydrocarbures.
Oui, on en a parlé, le gaz.
Eh oui, mais c'est très important.
Et êtes terrible, Gérard Chagnon.
Ben, c'est exact.
Moi, je pense que les Arméniens ont le droit aussi.
Ils ont le droit à ce qu'ils soient reconnus. Les Turcs continuent la dénégation absolue. Il ne s'est rien passé pour les Turcs. Bon, et quant aux Azerbaïdjanais qui parlent volontiers de génocide quand il s'agit de trois types de chez eux, ils ne reconnaissent pas celui des Arméniens. Donc, si vous voulez, la mauvaise foi l'emporte très très fortement dans tout ça. C'est chez les négationnistes.
Sur cette question.
Oui, et un chaos en Arménie, ça fait le jeu des Russes, si vous voulez, parce que les Russes, on n'a pas dit tout à l'heure, mais depuis la révolution de velours en Arménie qui a lieu en 2018, il y a un homme au pouvoir qui s'appelle Pachinian et qui joue contre l'élite anciennement pro-russe, l'élite arménienne, et qui joue côté ouest. On l'a beaucoup vu à l'Élysée, il joue la carte de l'Occident. Et ça, évidemment, les Russes ne le supportent pas. Et c'est ça aussi qui se joue. Alors, Pachinian n'a pas été du tout solidaire avec
le Premier ministre, arménien.
Nouveau Premier ministre depuis 2018, hein, à la suite de cette révolution. Il n'a pas été solidaire avec l'Artsakh, le Haut-Karabakh, pas du tout, il n'a pas bougé. Il a même lui-même dit en 2022 que le Haut-Karabakh faisait partie de l'Azerbaïdjan. Mais maintenant, ça va être son tour, peut-être. C'est là où ça va être compliqué.
Qui est pressenti, s'est entériné si on laisse faire, enfin, on pressent et on laisse faire. Donc, je pense qu'il faut aussi être prudent là-dessus. Le problème de l'Arménie, je suis d'accord qu'il y a eu beaucoup d'incuries, de problèmes de corruption, de gouvernance, etc. Mais bon, d'un pays qui n'a jamais eu vraiment pendant très longtemps un État, même l'État soviétique n'était pas vraiment souverain. Donc, il y a un problème aussi de vision, de diplomatie. Mais l'Arménie a gagné la guerre, mais a perdu la paix. L'Azerbaïdjan ou la Turquie, pendant longtemps, ont perdu leur guerre, mais ont gagné la paix par la diplomatie, par d'autres armes. Depuis 1994, où il y a eu cette victoire, il y a un groupe de Minsk qui s'est constitué avec notamment trois coprésidents, la Russie, la France et l'Angleterre, qui ont mené des négociations depuis 30 ans. Et ils sont de ce fait. Ces membres sont aussi responsables de la situation pour ne pas n'être arrivés à régler la question.
Merci.